sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée ? Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.
Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur.
Travailleuse, travailleur, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir.
Est-il en notre temps rien de plus odieux, de plus désespérant, de plus scandaleux que de ne pas croire en la démocratie ? Moi-même, quand on me demande « êtes-vous démocrate ?», je me tâte.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Barthas, sur le 107 FM et sur radiobarthas.net. Et cette semaine, ce sont des midis et des poussières un peu particuliers puisqu'on vous propose des émissions spéciales en vue des municipales. Oui, car on vote ce dimanche 15 mars partout en France et jusqu'en Sud-Lozère. Alors pour se préparer, pour s'intéresser, pour mieux se connaître aussi, pour s'écouter, se parler, on a voulu sur Radio Barthas faire entendre ce que les citoyens, les citoyennes projettent dans cette échéance électorale et plus largement ce qu'ils attendent ou non de la politique. Si les programmes des différentes listes leur semblent pertinents, leur demander ce qu'ils souhaitent, eux, pour leur ville, pour leur vie. Aujourd'hui, deuxième épisode, nous sommes mardi 3 mars dernier dans le hall de la Jeunette Verte. Le débat des municipales organisé par la Lozère Nouvelle et retransmis en direct sur les ondes de RCF vient de finir. Alors pourquoi pas aussi tendre le micro de Radio Barthas aux deux têtes de liste qui se sont prêtées à l'exercice du débat. Un aspect avait été, selon moi, assez peu abordé pendant les échanges, c'est la question de la démocratie participative. Au-delà de l'élection municipale le 15 mars, comment les différentes listes proposent de se tourner vers les Floraquoises et les Floraquois pendant leur mandat ? Quelle place auront les citoyennes et les citoyens pour s'exprimer démocratiquement, insuffler la politique locale et être partie prenante des prises de décision ? Guillaume Martin de la liste Ensemble pour le bien commun, suivi de Bernard Durand de la liste Unie pour Florac, me répondent.
Dans le mandat qui s'achève, il y avait déjà un certain nombre de choses qui avaient été mises en place pour ce qu'on va appeler pompeusement la démocratie participative, c'est-à-dire la consultation des citoyens sur la priorisation des investissements. C'est là d'ailleurs que la rénovation des écoles publiques était sortie largement en tête. Après, il y avait eu une consultation aussi à travers différents scénarios sur le fameux sens de circulation de l'avenue Monestier. Je pense que c'est essentiel de le faire parce que nous, les élus, on n'a pas forcément tous la science infuse. Et comme projet réussi, c'est un projet partagé au maximum. Là, ce qui va changer, c'est qu'on va accélérer un petit peu les choses en provoquant des assemblées citoyennes avec les acteurs associatifs, économiques, mais aussi des citoyens tirés au sort sur certains sujets importants comme les incivilités, la mobilité, pour avoir une réflexion plus approfondie, pour mener les projets à bien. Là, consulter la population sur absolument tous les sujets, je pense que c'est encore prématuré parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà prises collectivement avec les commissions municipales qui sont aussi ouvertes aux citoyens. Mais sur des sujets plus sensibles, plus de fond, ouais, il faudra le faire, il n'y a pas de problème.
Merci beaucoup. Sur la question de la démocratie participative, est-ce que vous et votre liste, vous avez prévu de solliciter les citoyens au-delà du vote le 15 mars régulièrement ?
Je l'ai répété peut-être deux ou trois fois, peut-être vous ne l'avez pas entendu. L'avenir des Floraquoises et des Floraquois leur appartient. Donc on les consultera, on ne fera rien, ça sera pas l'intérêt général, pour moi c'est un terme politique. L'intérêt du plus grand nombre. Voilà.
Et alors, un peu plus concrètement, comment est-ce que ces sollicitations se dérouleront ? Sous quelle forme ? À quel rythme ? À quelles occasions ?
Ça peut être des réunions de quartier, ça peut être des réunions provoquées dans une salle, sur un sujet bien particulier qui concerne certains riverains, certaines personnes. Le Jouquet n'est pas concerné par l'esplanade, donc on abordera les sujets au fur et à mesure.
Et comment est-ce que vous ferez savoir aux citoyennes et citoyens que ces sollicitations, ces consultations existent ? Par quel biais de communication vous les toucherez ?
Soit par les réseaux sociaux, soit par des invitations.
Dans les boîtes aux lettres, par exemple?
Par exemple.
Et à quel rythme ça? Donc ça sera au cas par cas, en fonction des projets?
Ça, ouais, en fonction des projets. Aucun intérêt de convoquer des personnes s'il n'y a pas de projet prévu.
Merci beaucoup.
De rien.
Midi et des poussières.
Merci aux deux têtes de liste d'avoir pris le temps de répondre à Radio Bartas après ces plus de 2 heures de débat, débat que vous pouvez, soit dit en passant, réécouter dans son intégralité sur la chaîne YouTube de La Lozère Nouvelle. Un débat qui a été très cordial, respectueux. Les deux candidats approuvaient même régulièrement les propos tenus par l'un ou par l'autre. Ils semblaient plutôt d'accord sur de nombreux sujets, pas si facile de les distinguer. J'ai laissé traîner mon micro à la sortie pour savoir ce qu'en avaient pensé les spectatrices et les spectateurs, capter à chaud quelques impressions.
Moi je pense que ça a été un très bon débat. Hein. Oui, je pense que bon, on a le choix à faire, mais bon, je trouve que ça a été un débat qui nous a un peu éclairé sur certaines choses.
Sur quoi par exemple?
Moi, je ne sais pas, sur la santé déjà, et puis sur la santé, puis sur la vie surtout de Florac.
Et voilà. Vous voyez des différences parce qu'on a l'impression que les deux candidats sont assez d'accord.
Oui, mais c'est sûr, nous on est un petit village, tout le monde se connaît, alors je pense que bon, ça se passe tout le temps bien. Voilà.
Alors comment on fait son choix dans ce cas?
Ben écoutez, je pense que nous, ça, comme on va dire ici, c'est un peu la tête du client, non? C'est pas comme ça qu'on dit. Voilà.
Merci.
Oui. Alors, j'ai déjà répondu à la Lozère Nouvelle que je trouvais que les deux candidats manquaient un peu d'expérience avec la scène, comment dire. Mais voilà, moi j'ai certains penchants quand même pour Guillaume Martin. Et je trouve qu'ils ont vraiment monté une équipe trop chouette avec plein de gens qui sont super motivés à faire des trucs incroyables pour le commune, qui sont vraiment passionnés et très investis. Il y a vraiment beaucoup d'élan et donc je souhaite fortement qu'ils gagnent.
Et est-ce que selon vous, ils ont abordé tous les aspects importants à prendre en compte pour Florac aujourd'hui ou il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui vous ont manqué?
Ouais, après, ils ont abordé pas mal de trucs, il y a certainement des manques. Après, j'ai eu pas une grosse journée, donc je ne sais pas si j'ai tous les sujets en tête. Mais déjà, je pense que c'est bien de parler du logement, ça c'est un gros sujet, du travail aussi, de comment emmener de dynamique et l'animation sur Florac. Tout ça, pour moi, c'est pas mal comme sujet.
Très bien, moi j'ai trouvé qu'ils étaient corrects tous les deux, très bien, c'est un bon débat, voilà.
Est-ce qu'ils ont abordé selon vous les points les plus importants pour la ville?
Oh, pas tous, mais bon, on ne peut pas tout aborder.
Selon vous, c'est quoi les priorités aujourd'hui pour Florac?
À Florac, la propreté et le stationnement. Parce que quand on est vieux, pour venir à Florac, pour pouvoir se garer, il faut quand même pouvoir se garer sans payer et sans mettre des tickets, voilà.
Et ils avaient l'air souvent d'accord. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, comment choisir?
Je sais déjà pour qui je vais voter. Voilà.
Donc, vous êtes venu juste...
Je n'ai pas changé d'avis. Voilà.
Et comment on choisit alors quand les propositions sont finalement assez proches les unes des autres? Comment
on
fait son choix?
Connaître les gens. Voilà. Moi, connaître les gens, c'est ma principale façon de faire pour voter. Si je ne connais pas, je ne vote pas. Voilà.
Merci, madame.
De rien.
Vous avez senti beaucoup de différence entre les deux propositions des deux candidats?
Oh, pas trop. Il faut dire qu'il y avait quand même une maman sortant qui connaissait les pouvoirs de la commune actuelle. Après, on ne sait pas ce que ça va devenir. C'est clair qu'il va falloir que l'un comme l'autre se motive pour aller les chercher, les sous. Ça va être très compliqué.
Et comment vous allez faire votre choix, vous, alors?
Mais moi, c'est le Florac, quoi. Bah c'est les gens de Florac. Les autres, je ne les connais pas, ils ne se sont jamais présentés à moi. Jamais ils se sont présentés à moi. Donc à un certain moment, je ne sais pas, moi je ne peux pas voter pour des gens que je ne connais pas.
Ils ont fait des réunions publiques d'information, la liste?
Moi je suis tous les jours dans Florac. Mes collègues, je les vois, je vois depuis que je suis né, puisque je suis floracois d'origine. Et les autres, je ne sais pas, moi c'est des gens qui sont venus peut-être pour travailler depuis quelques années, c'est peu. Et moi je parle à tout le monde, c'est pas compliqué, mais il faut qu'on vienne à moi aussi.
On est l'équipe sortante, donc moi j'ai un avis assez tranché forcément. J'ai trouvé la prestation de Guillaume Martin excellente, avec de très bonnes réponses et une connaissance évidente des dossiers. Voilà.
On a le sentiment de l'extérieur que quand même les deux candidats ont des propositions assez proches les unes des autres. Qu'est-ce que vous...
On va prendre à lire entre les lignes et il y a des... Je trouve que c'est pas forcément très proche justement, et c'est pour ça qu'il faut faire attention. L'éducation fait forcément l'unanimité, les travaux, ça fait forcément l'unanimité. Après, il y a des détails qui sont importants et ce ne sont pas que des détails. Donc moi, je trouve que c'est intéressant, il faut faire attention.
En fait, les positionnements politiques n'ont pas été très affichés et très opposés, en tout cas. Donc, vu que je crois savoir que c'est passé à la proportionnelle au niveau des municipales, donc on peut se dire que n'importe quelle liste qui passe, de toute façon, il y aura des conseillers de l'autre liste aussi. Donc, on sent qu'il y a quand même un peu un chemin un peu commun aux deux, quand même. Donc, on espère que ça fonctionnera bien ensemble. Bon, après, il n'y a pas eu de proposition hyper concrète, je trouve, qui les démarquait l'un ou l'autre. Donc, ça me dérange un peu, mais...
Nous ne sommes pas les bons, ils ne sont pas les méchants, même s'ils considèrent qu'ils sont les bons et nous les méchants.
La France, c'est tout à la fois, c'est tous les Français.
Chacun devra voter selon sa conscience.
Prenons maintenant un peu de recul et quittons la Genette pour monter tranquillement sur les hauteurs de l'autre côté du Tarnon, direction la maison de retraite de Florac. C'est là que Solène a rencontré Eliette et Michel pour sa galerie de portraits tous pourris. Elle a tendu son micro à l'une puis à l'autre et ça donne deux portraits politico-humanistes d'une grande profondeur. L'empathie est là, le respect aussi, ça touche, ça fait penser. On commence par Eliette, la doyenne.
Bah, on peut savoir à quoi vous pensez, les gars ?
Bah, à nous présenter à une élection. On en a déjà parlé, les mecs de droite ou les mecs de gauche, je veux dire, on est d'accord, c'est tous des pourris, surtout les mecs de gauche.
Tous pourris. Chronique de village. Savoir qu'à Florac, sur Radio Bartas.
C'est une petite commune extrêmement agréable.
Ne pas dire tous pourris, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a de vivre en démocratie.
Il y fait froid l'hiver, il y fait chaud l'été, mais les gens sont toujours sympathiques.
Quand je suis arrivée en Lozère, on m'a dit « Tu verras ici, il suffirait qu'on fasse exploser les ponts et on serait vraiment peinards ». En cette année d'échéance électorale avec les municipales qui arrivent bientôt et puis l'année prochaine les présidentielles, avec Radio Bartas on a voulu parler un peu de ça. Est-ce qu'on était vraiment peinards ici? Est-ce que la politique existe dans nos vies? À quel niveau? Est-ce qu'elle nous dérange? Est-ce qu'elle nous aide? Aujourd'hui, j'ai l'immense chance de passer du temps et de vous faire rencontrer Eliette, la doyenne de la maison de retraite de Florac.
Je vais avoir 5-4 ans.
C'est pas mal, hein?
J'aurais jamais cru.
Vous aviez déjà réfléchi à ça? Vous disiez que vous aviez envie de vieillir ou pas?
Je ne pensais pas à ça. Ma vie s'est écoulée comme ça et je suis venue vieille.
C'est quoi votre secret, vous croyez, pour aller jusqu'à 104 ans?
Ah ben alors là, je me le demande. C'est vrai que quand même, papa, maman sont venus à plus de 90 ans. Alors je pense que quand même, il doit y avoir dans le sang, il doit y avoir quelques petits secrets qui se cachent. Je suis une Cévenole, voilà. Si vous connaissez un peu la région, c'est la route Lacan là-haut. On monte jusqu'à Saint-Laurent-de-Trèves, on traverse toute cette cam et on descend après Saint-Jean-du-Gard, etc.
Vous êtes né là-bas?
Oui.
Donc en quelle année?
1922, quand je me suis mariée. À 20 ans, je suis venue à Florac. Et alors là, j'ai enseigné, j'ai eu une vie, ça a été varié malgré tout. Je travaillais dans des petites écoles, dans des petits hameaux. Et puis, on m'a nommé dans les collèges. Alors, le mercredi, j'allais à Saint-Enimie. Le vendredi, j'allais au Collet de Dèze. Là, j'avais une voiture, là, je conduisais. J'ai eu une vie qui me convenait bien. J'ai fait beaucoup de choses que je ne me suis plus dans ce que j'ai fait, voilà.
Vous trouvez que vous avez eu une belle vie?
Oui, je crois. Je crois.
Et vos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient, vos parents?
Ils étaient cultivateurs. Ils élevaient, ils faisaient les jardins, ils faisaient... Et même à la belle saison, l'automne, ils allaient vendanger ailleurs pour se faire un petit peu d'argent.
Ils allaient dans la plaine, du coup, vers Nîmes?
Vers Nîmes, oui, c'est ça. Ma maman était parisienne, mon papa était Cévenol.
Comment ils se sont croisés, alors?
Les vies, c'est drôle, quelquefois. maman était à Paris. Sa maman est morte très jeune. Son papa s'est remarié, une vraie marâtre, et qu'il fallait les séparer pour pas qu'elle soit malheureuse. Et j'avais donc un oncle, là, de Sévenol, et qui travaillait à Paris. Il s'y était marié, donc avec sa femme. Ils sont revenus et ils ont amené maman. Comme ça, elle a été élevée dans les Cévennes. Elle s'est mariée et voilà.
Et du coup, vous, votre mari, vous l'avez croisé comment?
Alors là, je vous parlerai de la guerre. Il était maquillé. C'était cette guerre quand les Allemands sont venus en France. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont cachés pour ne pas être pris par les Allemands. Il y avait une petite maison dans la campagne qui s'appelait la Picharlerie. Et c'était la maison de mon grand-père. Pendant la guerre, justement, les maquisards s'y sont cachés.
Et vous, vous alliez les voir, ces maquisards? Comment ils étaient en contact avec les gens du village?
Mais oui, bien sûr. Ils aidaient à travailler. Quand les gendarmes se pointaient par là, ils se cachaient. Aussi bien dans une étable. Voilà. Alors j'ai vécu cette période de guerre. Ce sont des périodes tout à fait différentes que j'ai vécues.
Et vous, ça vous faisait peur? Qu'est-ce que vous avez comme souvenir alors?
Oui, j'ai eu, oui, parce qu'il y avait à cette période une gendarmerie au Pompidou. Je ne sais pas si vous connaissez au Pompidou. Et ces gendarmes, ils faisaient sûrement ce qu'on leur demandait de faire. Un jour, où on les voit arriver devant la porte. Et comme il y avait des maquisards qui se cachaient chez moi, ils sont venus là devant la porte et ils ont dit à papa qu'ils savaient qu'il y avait des choses qui se passaient par là. Alors avec maman, on a dit ça y est, on va y passer tous là. Je sais qu'on est allé se cacher la tête sous les dredons dans la chambre pour ne rien entendre ce qui se passerait.
Parce que vous, pendant la guerre, vous aviez quel âge à peu près?
17 ans. Vous savez, on avait toujours peur qu'on vienne arrêter à leur papa, par exemple. Comme lui, il osait, je revois un jour, où il a trouvé sur la route, sur une route au milieu de la campagne, un jeune. Il marchait sur cette petite route, mais il y avait dans ce faciès quelque chose de... Il se passait quelque chose, alors il lui a posé la question. Il lui a dit que s'il voulait bien lui dire qu'il était à sa disposition. Et alors il lui a dit qu'il était de 7. Donc il lui a dit, bon, ben écoute, viens avec moi, suis ce chemin et on te cachera à la maison.
Il était courageux, votre père?
Oui, beaucoup. Il était courageux et puis il aimait les gens. Il avait un caractère d'or. Puisque le soir, quand il avait fini son travail, il avait un cheval. Il n'avait même pas la selle. Il montait sur le dos du cheval et il parcourait la campagne pour aller voir les gens, s'ils manquaient de rien, s'ils n'étaient pas malheureux, si... Voilà.
Pour aider les gens, toujours.
Oui, c'était ça.
D'accord.
Ah oui, c'était ça. Il a été maire de la commune là-bas plus de 30 ans.
Et votre mère, elle était comment?
Ah, maman, elle était venue de Paris, donc. Elle s'est bien habituée aux Cévennes. Oui, elle s'était très bien habituée. Elle s'est mariée.
Comment ils s'appelaient, vos parents?
Alors, mon papa, c'était Élie. Moi, je m'appelle Eliette. Et ma maman, Yvonne.
Et après, vous avez vécu à Florac tout le reste de votre vie?
Oui. J'ai fait ma carrière ici.
Vous avez vécu 80 ans à Florac?
Eh bien, je suis venue à 20 ans. Mais j'en ai 120. Non, 103. 104 bientôt. Moi, maintenant, je me dis... C'est rigolo tout ce que je raconte, tout ce que j'ai vécu.
Ils devaient être contents, les gens, quand vous êtes arrivés.
Je me suis bien entendue avec les gens.
Vous avez toujours été sociable?
Oui. J'aimais les gens. Je pense que c'est un peu familial aussi, ça. Et moi, papa nous a élevés comme ça. Il faut aimer les gens. Et puis,
c'est peut-être ça votre secret.
Mmh. beaucoup. Alors comme je vous ai raconté, moi j'ai aussi envie qu'on parle un peu du rapport à la politique. Alors du coup, c'est quoi vous votre rapport à ça?
Moi, le rapport à la politique, il va avec le rapport avec la vie. Je vous dis, comme mon papa était maire, c'était, moi, j'ai un souvenir de lui qui prenait soin de tous les gens des petits hameaux, parce que les Cévennes, ce sont des petits hameaux. Et pour moi, c'était ça, la politique, c'était s'occuper des gens, ne pas être là simplement pour avoir le nom et sans rien faire, quoi.
Et est-ce que vous trouvez que les hommes politiques nationaux, vous trouvez qu'ils ont ce rapport d'aider les gens? Est-ce que vous l'avez vu ça chez certains?
C'est vrai, j'ai vécu l'époque de Gaulle, Pétain, etc., etc. J'ai vu beaucoup de choses. Ceux qui profitaient. Je m'excuse, c'est mon téléphone.
C'est votre portable? Est-ce que vous vous souvenez où on en était avant de décrocher le téléphone? Vous commenciez à me dire, à me parler des présidents que vous aviez connus. Et vous me disiez... incroyable! On est censuré. Alors
là, je risque de plus avoir de réponse.
Vous parliez des différents présidents que vous avez connus.
Alors là, il me faudrait passer ça en revue.
Alors, que vous avez dû connaître De Gaulle, je pense.
Oui, c'est ça. Pétain.
Ensuite, il y a eu Pompidou.
Oui, Pompidou.
Vous souvenez, Pompidou. Après, il y a eu Giscard d'Estaing.
Et oui.
Mitterrand.
Mitterrand qui venait à Salgas, là.
Ah bon?
Je crois qu'il avait une maison, ou alors on lui prêtait, ou on fait quelque chose comme ça.
Mitterrand, après, il y a eu... Est-ce qu'il n'y aurait pas Chirac?
Oui, Chirac. C'est terrible de falloir chercher avant, hop, ça me venait, comme si je les voyais là. Maintenant, c'est plus la même chose.
Oui, mais peut-être que vous avez d'autres choses aussi dans votre tête que les présidents de la République. Hein.
Oui, c'est pas eux que je pense tous les jours.
Voilà.
Mais enfin, quand même, moi je me suis... Si j'ai suivi la politique de près, et puis comme mon papa était maire...
Est-ce que votre père, il avait une... On dit une couleur politique, ou est-ce qu'il avait...
Oui, il était socialiste. J'ai des petits souvenirs qui n'ont rien à voir avec la grande politique. Mais enfin, c'est vrai que cette période de la résistance, ça c'est quelque chose qui ne passe pas.
Pour vous, ce moment-là, c'est le moment... Le plus politique de votre vie, en fait, c'est ça? Ou c'était oui. Très concret pour vous?
Oui, oui.
En fait, c'est l'action la plus politique de votre père, finalement, de prendre tous ces risques-là.
Oui, mon beau-père, qui était ici à Florac, c'était pareil. Ce qui fait que c'est des moments qui m'ont vraiment marqué. Moi, si on me disait qu'il fallait cacher quelqu'un, je l'aurais fait.
Est-ce que maintenant, vous le feriez? Vous cacheriez dans votre chambre ici quelqu'un s'il fallait?
Je sais que je n'y arriverai pas. C'est assez de me cacher moi.
Est-ce que vous trouvez que les gens ils sont protégés ici, à Florac?
Avant, je trouvais que c'était, comment dire, un petit pays là, tout bien calme, bien. Mais maintenant, je ne suis pas au courant de tout. Et j'entends qu'il se passe ceci, cela. Que des jeunes ont fait ceci, cela. Seulement, je suis incapable maintenant, moi, de vraiment aller chercher dans les détails. C'est vrai, c'est pas vrai, ça?
Mais du coup, ça veut dire que vous restez aussi ouverte et que vous ne faites pas d'idées reçues non plus?
Ah non, non, non.
Est-ce que vous avez l'impression que les gens qui vivent dans les Cévennes, ils ont un caractère particulier?
Mais oui, j'avais l'impression. J'avais l'impression... Parce que je voyais ma famille, comment elle vivait. Parce que là aussi, là-bas, perdu, c'est une ferme perdue, ça. Et quand je pense que mes parents m'ont fait faire des études à Mende, pensionnaire, je me dis quand même, ils ont bien voulu me montrer qu'il y avait autre chose que la campagne. C'est peut-être pour ça que j'ai été élevée comme ça. Parler et nous parler de tout. et que j'ai appris beaucoup de choses que je n'aurais pas apprises.
Est-ce que vous auriez voulu être mairesse ?
Non. J'avais déjà assez, je trouvais, avec la vie que j'avais. Je me suis occupée de beaucoup de gens. Je sais que j'ai fait beaucoup de choses comme ça. Je devais être un peu comme papa. J'aurais voulu tout connaître, tout ce qui se passait, comment ça se passait. Je continue maintenant à mon âge que les enfants, mes enfants, qui m'appellent tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, c'est pas mal ça.
Ah oui.
Oui, parce qu'ils ont... Ils ont eu leur vie aussi.
Eux aussi, ils sont comme votre famille. Ils aiment prendre soin des gens.
Oui. Alors, je ne peux pas demander mieux. Quand on a été élevé un peu comme ça, il vous reste quand même des...
C'est sûr.
Oui.
Mais merci en tout cas, Eliette. Merci beaucoup pour ce temps et ces souvenirs.
Merci Solène et merci infiniment à Eliette, doyenne de la maison de retraite de Florac, pour ce témoignage bouleversant de sagesse. Et merci aussi à Françou, animatrice génialissime de nos aînés, d'avoir permis ces échanges. On reste à la maison de retraite et on suit Solène qui a quitté la chambre d'Eliette pour entrer dans celle de Michel. Tous pourris, portrait numéro 3. Allez, on se remet le générique, il est tellement bien.
Bah, on peut savoir à quoi vous pensez les gars ?
Bah, à nous présenter à une élection ! On en a déjà parlé, les mecs de droite ou les mecs de gauche, ah, je veux dire, on est d'accord, c'est tous des pourris, surtout les mecs de gauche. Attends.
Tous pourris. Chronique de village.
Faut savoir qu'à Florac,
sur Radio Bartas.
C'est une petite commune extrêmement agréable.
Ne pas dire tous pourris, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a de vivre en démocratie.
Il y fait froid l'hiver, il y fait chaud l'été, mais les gens sont toujours sympathiques.
Quand je suis arrivé en Lozère, on m'a dit, tu verras ici, il suffirait qu'on fasse exploser les ponts et on serait vraiment peinards. En cette année d'échéance électorale avec les municipales qui arrivent bientôt et puis l'année prochaine les présidentielles, avec Radio Bartas on a voulu parler un peu de ça. Est-ce qu'on était vraiment peinards ici ? Est-ce que la politique existe dans nos vies ? À quel niveau ? Est-ce qu'elle nous dérange ? Est-ce qu'elle nous aide ? Aujourd'hui, après l'enregistrement de l'émission La Radio des Aînés à la maison de retraite de Florac, émission que je vous invite d'ailleurs à aller réécouter sur le site de Radio Bartas, je pose la question à Michel.
Avec un seul aile, parce que je suis la moitié d'un ange. Le reste, je ne vous dis pas ce que c'est.
D'accord. Et donc, vous avez des oiseaux quand
oui,
même.
Ce sont des inséparables.
Ah, c'est des inséparables.
Normalement, il faut les avoir deux par deux, quoi.
Ouais. Comment ils s'appellent, ces deux inséparables ?
Loulou et Jojo.
Ok.
Alors, quand je suis arrivée il y a un an, comme les gens ont du mal à retenir les noms, c'est la dame aux oiseaux. Ça me plaît bien.
Est-ce que je peux vous demander votre âge ?
81 ans.
Vos oiseaux, par contre, ils font du bruit fort dans...
oui. On va aller à côté.
Ça vous dérange pas qu'on aille à côté ?
Dans un petit salon, il sera même mieux.
Et où est-ce que vous êtes née ?
Je suis née au pied d'une montagne qui s'appelle le Mont Aiguille, pas très loin de Grenoble. J'avais un parâtre qui était communiste, donc j'ai été élevée dans un milieu... il avait des idées très, très arrêtées. Je connais une chanson, « Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge ». C'est des révolutionnaires. C'est, ouais. Quelque part, tous les patrons, c'est des capitalistes qui pensent qu'à eux. On est pour l'intérêt des gens qui travaillent.
Ça, donc vous avez gardé un peu ces valeurs-là.
Mmh. Oui, des grands-parents gaullistes. Donc, je suis une mixture de choses. Et maintenant, ayant vieilli, je n'ai plus l'envie de participer à ces choses-là. C'est-à-dire que mes parents se sont séparés, j'étais bébé, je n'ai jamais vécu avec mon vrai père. Et dans ma petite enfance, je n'avais pas d'amis, parce que maman divorcée, ça, c'était mal vu.
Oui, parce qu'à l'époque, oui. C'était pas du tout courant.
J'étais la seule fille de divorcée, j'ai découvert mon père à 19 ans. Mais au collège, dans la classe, et à l'époque, il y avait 36 élèves, J'étais la seule fille divorcée. Et alors, je peux vous dire, j'étais moins bavarde que maintenant. Et mon père s'est remarié plus tard aussi. Et j'ai deux demi-frères. Un qui a 15 ans de moins que moi et l'autre qui a 17 ans de moins que moi. Leur maman, qui était très pratiquante, n'a jamais voulu dire qu'elle s'était mariée avec un divorcé. Ça m'a beaucoup marquée. Et j'ai connu en cachette de leur mère mes deux frères. Et ils avaient, je crois que l'aîné avait 21 ans. Le plus âgé m'a dit que peut-être on n'aurait pas des liens aussi forts maintenant si on s'était connus plus tôt. Maman disait que j'étais costaud.
Bah oui, vous avez forcément dû vous endurcir. Qu'est-ce qui vous a amené ici, dans les Cévennes ?
Je suis venue un 1er avril 1967 en voyage de noces à Langogne. J'aurais dû me méfier.
Pourquoi vous avez choisi Langogne comme voyage de noces ?
C'est mon mari qui était venu en vacances quand il était adolescent. Il avait passé des super vacances à Langogne l'été. Mais un 1er avril, il faisait pas chaud.
Mais ça vous a quand même plu.
Ben, c'est-à-dire que nous sommes allés dans l'hôtel-restaurant à Vialas, qui s'appelle le Chantoiseau. Nous avons été accueillis donc, surtout par la femme donc, qui tenait cet hôtel. Tellement généreuse, tellement empathique. Je suis tombée amoureuse de la Lozère et des Lozériens. Et en 1980, il a fallu choisir de partir de Grenoble. Et j'ai dit à mon mari, moi je veux bien aller en Lozère, mais j'ai connu des gens extraordinaires en Lozère. Moi j'avais 3 enfants. Alors comme je dis, j'ai eu, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du vilain petit canard. Alors mon œuf de cygne, c'est mon fils aîné qui est musicien. Et deux petits canards qui sont handicapés et qui sont à la maison d'accueil de Florac. C'est pour ça que j'ai choisi de venir à la maison de retraite de Florac. Sébastien a 45 ans maintenant et Guillaume a 55 ans. Et il a 15 mois d'écart avec mon fils aîné musicien.
D'accord, qui s'appelle comment ?
Olivier. Et qui joue du hautbois. Je ne peux pas dire que j'ai bien vécu avec tout ça, mais là maintenant, ça fait un an, je me détends peu à peu. Je ne sais pas comment vous dire.
Que je fais, c'est aussi pour parler du coup de la politique. Alors c'est un grand sujet.
Alors voilà. Moi je suis apolitique. Les gens qui nous dirigent, ils n'ont pas comment la réalité des choses. Tout le monde tire la couverture de son côté, ils ne regardent pas l'intérêt général, ils regardent leur intérêt propre. Et c'est pour ça que je suis écœuré par la politique.
Si vous, par exemple, actuellement, si vous deveniez président de la République, imaginons.
Il faudrait simplifier pas mal de choses. Je trouve qu'on est noyé entre les lois, les contraintes, les papiers, tout ça.
Est-ce que c'était plus simple, tout ça, la paperasse et tout, quand vous étiez plus jeune ?
C'est-à-dire qu'il y a eu des lois qui se sont mises progressivement en place, comme l'association de tutelle. Je vous dis, c'était dans les années 80, début 80, n'existait pas, quoi. Donc c'était réglé souvent par les notaires, quoi. Moi, je vois pour mes enfants handicapés, Le troisième, donc, qui est IMC tétraplégique, donc qui ne parle pas, qui ne marche pas, qui ne tient même pas assis tout seul, je l'ai mis en tutelle. J'ai fini la tutelle juste avant d'arriver ici. C'est pour ça que je suis bien ici, parce que je me suis déchargée de ce souci. Qu'est-ce qu'ils vont devenir quand je ne serai plus là ? Et je ne voulais pas qu'ils soient à la charge de leur frère aîné.
Vous avez l'impression que ça s'est empiré, les hommes politiques, la vie politique, ou que
oui, c'est pas que ça s'est empiré, c'est qu'on en parle beaucoup plus. Autrefois, on n'avait pas tous ces moyens de communication, donc on avait le journal. Donc, si vous voulez, on n'avait pas toutes ces informations qui font qu'au bout d'un certain temps, on ne sait plus ce qu'il faut penser, parce que tout le monde est très convaincant. Maintenant, j'essaie, depuis que je suis là, depuis que je suis à Florac, j'essaie de penser à moi. Maintenant, je profite. Et puis, je suis sociable, mais sauvage. C'est-à-dire que, vous voyez, je parle facilement, mais j'aime bien rester dans ma chambre.
Vous avez un avis sur la mairie ici, sur ce qui se fait ? Je ne sais pas si...
Ben non.
Ouais, ça...
Ça ne m'intéresse plus. Pas, ouais. Non, j'aime pas ce milieu-là. Il est trop loin de moi. Moi, je suis terrienne.
Vous êtes un peu communiste, quand même.
Non, mais j'ai les deux pieds sur terre. J'ai pas la tête en l'air.
Bah, merci beaucoup, Michel. C'était vraiment très agréable de partager ce temps avec vous. Merci beaucoup.
Faut pas me dire merci, c'est la vie. Sé su nombre, no conozco su olor, pero con ella paso los días, las confesiones de mi dolor. Oiseau perdu, dans mes rêves inconnus. Oiseau sauvage, donne-moi ton courage.
Et pour finir, période électorale certes, mais mercredi et c'est le jour de l'immanquable chronique Parlons Ciné avec Cinéco. En plus, vous allez voir, on reste dans le thème, car dans le film dont Mireille, la présidente de Cinéco, va nous parler aujourd'hui, il est question de mobilisation citoyenne dans une petite commune rurale d'Azerbaïdjan à travers la création d'une salle de cinéma.
Parlons Ciné
avec Cinéco.
La rubrique cinéma de Cinéco,
l'association de cinéma itinérant en Cévennes, sur Radio Bartas.
Et aujourd'hui, c'est toi Mireille qui viens pour cette chronique Parlons Ciné avec Cinéco. Bonjour.
Bonjour Raphaël.
C'est chouette parce que tu es en studio, on s'est vu que en visio jusqu'à présent et là tu es de passage à Florac. Donc,
avec grand plaisir.
Tu es présente ici et avant de nous parler donc, du film du jour, hein, c'est le retour du projectionniste, on donne déjà le titre, tu voulais faire une petite aparté sur un événement que vous organisez la semaine prochaine à Vialas.
Voilà, parce qu'à Vialas on est partenaire, et Cinéco en général, de l'association CTA, donc c'est Cévennes Terre d'Accueil. Et on a, avec la programmation de la petite cuisine de Mehdi, on a eu envie de les inviter et ils vont organiser un repas au profit de leur association avec des prix très raisonnables entre les deux films. Donc ça sera le mardi 17 mars à Vialas à 19h30. Donc entre le film d'avant, c'est Outsider de Coppola, il y aura le repas CTA et après il y a la petite cuisine de Mehdi qui est un très beau film aussi sur la transmission gastronomique et culinaire. Voilà, donc merci de les soutenir.
Voilà, et la petite cuisine de Mehdi fera aussi l'objet d'une chronique très, très prochainement dans cette émission sur Radio Bartas. Et donc, aujourd'hui, toi, tu nous parles du film, un film azerbaïdjanais qui s'appelle « Le retour du projectionniste ».
Oui, alors ça, c'est un film improbable que j'ai découvert dans un festival il y a quelques mois. Très rapidement, l'histoire. Un village reculé au sud de l'Azerbaïdjan, aux frontières de l'Iran. un réparateur de télévision à la retraite qui dépoussière un vieux projecteur et qui a un rêve de faire réunir tout son village devant le grand écran, remettre en fin de compte le cinéma dans son village. Et dans ce village, il y a un jeune cinéphile qui est lui féru de réseaux sociaux et ils veulent s'allier pour essayer de réussir à faire revenir le cinéma dans ce village.
Faire revenir le cinéma donc dans cette zone rurale un peu reculée de l'Azerbaïdjan, j'imagine que ça vous parle particulièrement à vous, à Cineco.
Ben oui, c'est pour ça qu'on a eu vraiment ce coup de cœur, parce que Cineco est né dans les années 80, donc déjà plus de 40 ans, et pour créer quoi, des espaces de projection, mais aussi une expérience collective, là où le cinéma n'existait pas. Et on s'est dit que perd-on, en fin de compte, quand le cinéma disparaît d'un territoire? Alors moi, je peux répondre pour moi, on perd peut-être l'occasion de partager une histoire, on perd des images qui sont réfléchies, qui sont construites, qui sont cadrées, qui sont magiques ou qui sont moins magiques, qui sont réelles ou qui sont fictionnelles. On perd l'idée de confronter des idées, on perd l'idée d'aller chercher ensuite les films du même cinéaste, mais surtout on gagne en mettant du cinéma dans un territoire rural, on gagne des amis, on gagne face à l'isolement rural qui est réel, même si on fait en sorte qu'il ne le soit moins, on gagne des souvenirs, on gagne une pause face aux petites injonctions du quotidien, on se déconnecte, on s'évade. Et Marguerite Duras disait que le cinéma, c'était une communion laïque. Et je trouve que l'expression est très belle.
Et alors ce film, j'ai regardé la bande-annonce tout à l'heure. Il est très bien mis en scène, très bien filmé. Même, on se demande, parce que donc, c'est un documentaire, mais on a même parfois l'impression d'être face à une fiction.
Et voilà, et c'est ça l'intérêt aussi de ce film. Au-delà de l'histoire, qui est une très belle histoire, au-delà du pays qui nous fait voyager, je trouve que l'intérêt de ce film, c'est qu'il a une approche hybride. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais si on est dans le documentaire ou dans la fiction. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le jeune cinéaste, on en parlera après, pour construire? Il a ajouté des dialogues qui sont souvent savoureux. Il a inventé aussi des scènes dans la neige. Je vous donne un exemple où on va aller chercher du réseau dans la neige. Il est évident qu'il n'est pas allé filmer le protagoniste villageois du village. Il lui a demandé d'aller dans la neige et de chercher un réseau. Donc il y a une très belle scène comme ça. Il a nourri aussi de reconstruction. Il a aussi tourné des vraies scènes dans le village azerbaïdjanais. Et il est allé à peu près tous les deux mois pour capter des moments. Et quand ça ne se passait pas comme il voulait, il faisait rejouer les scènes.
Donc il utilise un petit peu les villageois comme des comédiens, mais voilà, tout est réel, mais il met en scène un peu le réel, quoi.
Et alors j'ai appris quelque chose, ce que j'ignorais, c'est qu'à l'époque soviétique, il existait des cours de théâtre obligatoires pour tout le monde. Et en fin de compte, ces habitants du village, ils sont déjà acteurs, ils sont presque acteurs, ils sont très naturels à l'écran.
Et comment est-ce qu'il a été pensé au départ, alors ce film? Qu'est-ce qui lui a donné envie de faire ça? Comment est-ce qu'il a entendu parler peut-être de ce projet dans ce village?
De ce personnage, il s'appelle Samid le personnage, ce vieux projectionniste. Mais parce qu'il est allé, il avait obtenu une bourse d'études pour faire un master, et en réalisation, et il avait besoin de faire un film de fin d'études, un court-métrage. Et il a cherché un village, il a fait des repérages, et il a été bloqué par la neige, et l'équipe a été hébergée justement par ce projectionniste. Et il a gardé ça dans sa tête, il avait filmé que quelques images avec son téléphone, et il s'est dit qu'un jour, il raconterait l'histoire de ce projectionniste. Je trouve que c'est une très belle histoire.
Parce que donc il avait déjà tourné des courts-métrages avant, ça c'est son premier long.
Voilà.
Et est-ce qu'on peut parler un peu de lui, donc ce cinéaste, justement, un peu son parcours, son profil? Alors, qu'est-ce qu'il a fait avant?
Il est encore jeune quand même, il a 38 ans, il est né dans le sud de l'Iran, il est d'un milieu familial lié au cinéma, son père est toujours, j'espère, je ne vais pas vérifier, réalisateur pour la télévision. Il a vécu à Bakou, donc une grosse cité pétrolière. Il a commencé dans le journalisme, ça lui plaisait pas. Donc il a préféré aller faire une école de cinéma, c'est là où il a eu cette bourse pour aller à London School. Et il a aussi compris qu'en Europe, il y avait beaucoup de résidences de création. Et donc il a demandé des bourses pour avoir des résidences de création. Et c'est là qu'il a commencé à faire son travail personnel et à inventer des histoires et des films.
Et ben, ça donne très envie de le voir aussi pour découvrir un peu le pays, parce que l'Azerbaïdjan, c'est un pays, en France, on en parle très peu, on a peu d'images, donc ça donne aussi envie de le découvrir à travers ce film. Et il est en train de préparer un nouveau projet de deuxième long métrage.
C'est vrai. Alors, donc, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il a été produit non pas par des producteurs d'Azerbaïdjan, parce qu'il ne le voulait pas, parce qu'il trouvait que le cinéma de l'Azerbaïdjan est encore trop classique, un peu censuré, il faut faire des films dans la norme, et ça ne lui plaisait pas trop. Donc il a préféré être plus indépendant, et il est allé voir des producteurs français. Il a trouvé un producteur français et un producteur allemand. Le producteur français, c'est Kidam, et ce producteur français l'a aidé donc à faire le retour du projectionnisme, mais va également l'aider à faire un deuxième film. Je vous retrouve le titre tout de suite, qui s'appelle, en fin de compte, les habits derrière le... En français, je le traduirai par les habits derrière le mur. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais en tout cas, c'est un cinéaste qu'on a envie de découvrir, de continuer à suivre à Cinéco. Et en tout cas, déjà, le retour du projectionniste est un film absolument original, splendide et à découvrir.
Et le court-métrage, peut-être aussi que vous pourrez le programmer avec Cinéco.
On essaiera. On essaiera.
Merci beaucoup Mireille. Est-ce que tu peux juste nous redonner le nom de ce réalisateur ?
Alors, oui, c'est vrai qu'il a un nom compliqué. Orkan, et moi c'est vrai que j'ai préféré ne pas le prononcer. Orkan Agazadeh. Orkan Agazadeh.
Merci beaucoup Mireille. À bientôt.
Avec grand plaisir.
Et voilà, c'est la fin de cette émission consacrée essentiellement aux élections municipales. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. On se retrouve demain, même heure, midi et des poussières pétantes, juste après le journal de RFI, pour le dernier épisode de cette série spéciale municipale. Salut.
Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur.
Travailleuses, travailleurs, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir.
Est-il en notre temps rien de plus odieux, de plus désespérant, de plus scandaleux que de ne pas croire en la démocratie ? Moi-même, quand on me demande « êtes-vous démocrate ?», je me tâte.
Ma cos'è? La luce piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, comedy, comedy. Ah, comedy, anticamente vista Napoli, con lontanissimi binocoli. Comedy, comedy, don't you?